Nouvelle ferme, on va dire, ferme permacole. Du coup, on savait un peu ce qu'on voulait faire en termes de transition, passer vers un système permacole. Mais pour savoir vers où on va, il faut savoir d'où on part. Donc on était trois jeunes, pas forcément issus de l'agriculture. Puis l'agriculture est tellement dépendante d'un contexte pédoclimatique, économique, etc. qu'en fait, il fallait qu'on en sache un peu plus, qu'est-ce qu'on pouvait faire évoluer ou autre. Donc c'est pour ça qu'en 2013, on a reproduit exactement le schéma des anciens, comment ils fonctionnaient, etc. pour voir justement qu'est-ce qu'on pouvait faire évoluer. Et puis on n'a peut-être pas eu de chance cette année-là, mais en fait ça correspondait cette année-là avec le retour du loup pour nous. Voilà. Du coup on a fait 18 attaques dans la saison, 80 tués, 50 disparus. Nous, l'estive, c'est la montagne qui est en face. Voilà. Donc les animaux vont là-bas en été. Et puis c'était un système où jusque-là, les parcs faisaient 30-35 hectares, les animaux étaient lâchés dans ces parcs, mais pas de présence humaine, pas de chien de protection, parce qu'il fallait que les associés soient sur les tracteurs pour produire du foin. On est quand même à 1000 mètres d'altitude, il peut faire moins 20 en hiver, il y a de l'herbe qui arrive assez tard dans la saison, qui disparaît assez vite, donc beaucoup de nourriture à faire, on va dire, pour pouvoir passer l'hiver. Du coup, c'était des heures et des heures de tracteur. Et puis, ça marchait tant que le loup n'était pas là. Mais pour nous, en fait, ça a été un peu catastrophique en termes d'initiation. Donc, des trois jeunes qu'on était au début, je suis un peu le dernier à être resté. Voilà. C'était pas un modèle qui était très attirant pour nous. En fait, on a passé l'été à crapahuter dans la forêt, à chercher des cadavres pour se faire un petit peu indemniser. Je parlais des heures et des heures de tracteur, voilà, donc un rythme où... Quand on arrive de la société où on nous prône un système 35 heures, 5 semaines de congés payés et puis le SMIC, et qu'on arrive dans un truc où bon, on se paye la moitié du SMIC pour faire 70 heures semaine, forcément c'est un petit différentiel. On s'est rendu compte que la vente des agneaux, on dégageait 30 000 euros, le budget mécanique gasoil c'était 30 000 euros. Donc en fait on payait pour. On travaillait pour payer le gasoil et la mécanique. Donc on n'était pas vraiment libre de ce qu'on voulait faire. On dépendait, je pense, à facilement 95% des subventions européennes. Donc voilà, il faut respecter les règles parce que sinon on n'a pas les sous et en gros on survit pas. On avait la chance quand même de récupérer un système qui tenait économiquement grâce à ces subventions. Mais voilà, l'idée c'était comment on fait autrement sans se mettre en péril dans notre transition. Du coup, 800 brebis, ça fait beaucoup d'agneaux d'un coup, donc on pouvait pas faire de vente directe, ça partait à la coopérative en label rouge. Le label rouge, c'était quand même en 5 mois, il faut que les animaux fassent leurs 20 kg de carcasse. Donc les agneaux sortent pas, voient pas l'herbe. On les nourrit avec du concentré. Le concentré, quand on n'est pas en bio, c'est du soja. Donc le soja, on sait d'où il vient, hein, on sait ce qu'il y a dedans. Donc tout un ensemble de choses où c'est bien, on savait qu'il y avait pas mal de choses à faire évoluer justement. Donc on a commencé par travailler sur un peu cette réflexion du système d'élevage permacole, justement, qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça voulait dire. L'idée c'était pourquoi est-ce que chez nos grands-parents, chez les paysans d'avant, en fait, quand ils avaient un âne, trois chèvres, quelques moutons, des poules, ça fonctionnait bien, qu'on n'était pas obligé de les complémenter avec des concentrés, qu'on n'était pas obligé de faire des traitements sanitaires, qu'il n'y avait pas des gros déséquilibres. Donc observer un petit peu tout ça, réfléchir. Et en fait, c'est parce que 800 brebis pendant 30 ans sur un territoire, c'est une monoculture, c'est du monospécifique. Donc ça crée forcément des déséquilibres dans l'écosystème, même si on défend des systèmes pastoraux où aujourd'hui c'est beau de faire des transhumances, etc. Il y a quand même cet enjeu que un animal, quand il arrive dans une parcelle, il va manger la plante qu'il aime, il va laisser grainer celle qu'il n'aime pas. Au bout de 30 ans, il n'y a plus que des plantes qui sont peu intéressantes. En termes de parasites, chaque année, dans ses excréments, il va lâcher des larves de parasites, donc la pression parasitaire des parcs, elle augmente. Et après, chaque fois qu'on y met les animaux, forcément, ils attrapent des parasites, ce qui implique derrière des traitements sanitaires. Et donc quand on n'est pas en bio, encore une fois, c'est des traitements un petit peu chimiques qui détruisent toute la biodiversité qu'on a derrière, et notamment les animaux qui ont un rôle hyper important de répartir et de dégrader cette matière organique, notamment les bousiers. Donc c'est pour ça que quand il y avait différents animaux, comme très peu de maladies sont interspécifiques, il y a la salmonelle, mais sinon il n'y a quasiment pas de maladie qui passe d'une brebis à une vache ou des choses comme ça. Quand on va plutôt faire des rotations, c'est-à-dire mettre des vaches, après des brebis, puis des chevaux, puis des chèvres, etc. À chaque fois, ils mangent des larves de parasites, puis ils les détruisent, et donc on réduit la pression parasitaire des parcs, qui fait que quand on remettra les brebis quelques années après, en fait, elles ne vont pas s'infester, on n'aura pas ces traitements-là à réaliser. En termes de prélèvement de végétation, chaque type d'animaux mangent différentes choses et donc forcément on a une végétation qui arrive mieux à résister et à se remettre du fait d'avoir été pâturée. Donc voilà, travailler un petit peu à ces systèmes-là. Mais donc ça implique forcément d'avoir différentes personnes parce que différents troupeaux, c'est si on reste cohérent et un petit peu dans cette logique Kogi de bah, avoir des gens qui sont passionnés et qui ont envie de faire les choses. Ben, il nous faut un spécialiste pour le fromage de chèvre, il nous faut un spécialiste pour les chevaux, il nous faut un spécialiste pour les vaches, quelqu'un de passionné qui a envie de prendre les choses en main et puis de développer l'atelier. Que ça soit pas on le fait parce qu'il faut le faire, mais que ça soit vite une contrainte et qu'en fait dans le temps on n'ait plus envie de le faire, quoi. Donc aujourd'hui c'est ça, on a à peu près 350 brebis, une quarantaine de vaches, une quarantaine de chèvres pour le fromage pour le coup. Brebis et vaches c'est pour la viande et puis ouais, je dirais presque une quinzaine de chevaux. On est ferme équestre aujourd'hui, donc il y a des balades, il y a de la traction animale, il y a pas mal de choses autour de l'atelier équin aussi. On n'est pas encore à refaire les foins en traction animale, mais bon, aujourd'hui il y a eu un peu de débardage, et on se dit qu'avec forcément la crise de l'énergie, peut-être qu'à un moment il faudrait y revenir. Dans tous les cas, ça fait partie des successions d'animaux qui sont importantes pour la gestion de notre parcellaire. Voilà, et en fait d'avoir plein de petites productions comme ça, c'est ce qui nous a permis aussi du coup de pouvoir faire, aujourd'hui on est à 100% de vente directe, avec presque 70-80% de nos produits qui partent sur les deux villages aux alentours, et le reste entre l'abattoir de Die et ici, de la livraison de caissettes. On est aussi au magasin La Caroline, on est à la Milpa, enfin voilà, les différents magasins de producteurs. Voilà, mais du coup, relocaliser complètement la vente, on va dire, ce qui fait qu'on peut valoriser beaucoup mieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est 6 associés, là où avant, c'était 3 associés. L'idée, c'était aussi de se dire ça, que sur 1100 hectares, c'était quand même dommage de n'avoir que 3 agriculteurs, alors qu'il y a 200 ans, à Bellegarde, ils étaient 800 habitants. Aujourd'hui, on est une centaine, on va dire, mais voilà, en termes de gens qui peuvent vivre, on va dire, de ce territoire, il y en a quand même beaucoup plus. Entre le moment où on est arrivé en 2012, il restait 12 personnes dans le village de Mont-Lahuc. Aujourd'hui, on est quand même un peu plus d'une quarantaine. Donc c'est pareil, ça a permis aussi de redynamiser un petit peu ce qui se passe ici sur le village. Voilà, donc on va dire une transition qui a quand même fonctionné. Mais donc, pour marcher, il fallait travailler en fait sur justement bah, comment fonctionner ensemble en termes de collectif. C'était un peu ce constat qu'on avait pu observer justement chez les anciens. Pourquoi est-ce qu'ils avaient arrêté le projet? C'était justement on joue à un jeu ensemble, comment est-ce qu'on pose les règles et comment est-ce qu'on arrive à s'y tenir pour que tout se passe de la meilleure des façons. Donc quand je parlais tout à l'heure de la ferme de l'EPNS, nous c'était un petit peu notre spécificité justement de travailler énormément sur la notion du lien. Le lien entre l'homme et la nature, mais le lien entre l'homme et l'homme aussi, quand on parle de stage famille, etc., c'est vraiment bah justement quelle gouvernance on pose de façon à ce que tout le monde se sente à sa place, et dans une logique où on avait envie de se dire on laisse pas le choix. C'est-à-dire que quand on prend une tribu chez les Kogi, c'est pas « oh bah la tribu elle m'énerve, je vais aller vivre de mon côté 200 mètres plus loin dans la forêt ». C'est « je fais partie de la tribu, je fais partie de la tribu ». Quoi. Voilà, donc nous, ce qu'on s'est dit quand on a eu ces 1150 hectares, hein, c'est gigantesque. On s'est dit bah, « en fait, soit on fait le choix de lâcher des terres et de diminuer la taille de la ferme, parce que quand on parle de permaculture, en général, c'est plutôt des petites fermes. On dit souvent qu'un paysan doit faire le tour de son parcellaire à pied dans la journée, etc. Nous, on s'est dit, bah non, c'est aussi une opportunité de se dire, il y a une structure agricole pour un territoire, pour un village, pour la tribu. Et en fait, si tu veux faire de l'agriculture à Mont-Lahuc, bienvenue. Mais on le fait ensemble, c'est-à-dire que tu intègres la structure, c'est pas tu vas faire à côté d'eux. Comme ça, on a une obligation de mutualiser les terres, le matériel, les revenus, mais aussi du coup la gestion du territoire, la responsabilité de l'écosystème, que ça se passe bien, dans une logique d'intelligence collective où en fait à chaque fois on discute des choses, on pose ça sur le papier, on y réfléchit pour que ça soit fait de la façon la plus cohérente possible. Et que ça soit pas, par exemple, nous qui essayons de stimuler un maximum la biodiversité, d'aller, aujourd'hui on est en bio, hein, donc de faire une agriculture sans pesticides, sans chimie, etc. Et puis qu'en fait on ait un voisin qui s'installe et puis qui aille complètement à l'inverse de notre démarche. Donc voilà, comme ça, c'est pour ça qu'on a fait ce choix en fait de dire, bah, en fait on garde tout ça, mais on va travailler à ce modèle de fonctionnement. Donc pour que ça fonctionne, on a travaillé sur d'abord notre vision. Il fallait vraiment qu'on ait une vision commune. C'était un petit peu ça qui a généré des tensions chez les anciens. C'est qu'entre eux, bah, la vision justement du post-68art qui imaginait petite ferme bio et puis bah, potentiellement un autre de ses associés qui lui était plus bah, dans la technique, le conventionnel. Le but était d'avoir un beau troupeau, que ça marche, etc. Donc on savait pas aussi à cette époque, hein, mais que voilà, on aille beaucoup plus dans la technique et dans ce que le progrès nous amenait. Forcément la vision n'était pas la même. Donc nous on a travaillé pendant presque un an, hein, sur voilà, être sûr qu'on soit dans le même projet, qu'on y mette les mêmes valeurs, le même engagement. Qu'est-ce que c'est ce projet? Est-ce que c'est un travail 35 heures, on gagne des sous pour se faire plaisir le week-end? Ou nous on l'a plutôt posé comme c'est un projet de vie. En gros, on a 1000 hectares de jardin sur lequel on fait ce qu'on a besoin pour se nourrir, pour se chauffer, pour construire, pour profiter aussi, hein, puisqu'on a des chevaux, on part en balade avec, etc. Enfin voilà, notre qualité de vie vient en fait de notre projet. Et du coup, on s'est fixé des petits salaires au début. Le but, c'est de garder un maximum de capacité d'investissement pour développer ce projet qui est en fait ce qui nous fait plaisir au quotidien. Si on fait autant d'heures dans l'agricole, il faut qu'à chaque heure ça soit un plaisir, que ça soit pas une contrainte et quelque chose qu'on fait par dépit pour justement gagner un petit peu d'argent, quoi. Donc voilà, l'engagement, le rythme de vie, hein, quelle implication on veut y mettre. Donc justement ce que je disais, en général dans l'agriculture, un éleveur c'est 365 jours par an, quoi. Ça, et puis bah, du coup, en termes de gouvernance, comment on fonctionne, c'est ce que je disais, la règle du jeu. Nous, c'est 2 réunions par semaine, en gros, minimum. Une le lundi pour s'organiser, comment est-ce qu'on va faire les choses, quelles sont les grandes priorités, c'est quoi les impondérables aussi de chacun, justement, les enfants, les rendez-vous de médecins, quelle disponibilité on a. Donc c'est quoi les priorités, c'est quoi où on va prioriser les investissements en matière d'argent, etc. Donc ça, on pose tout ça sur le papier. Puis la deuxième réunion, c'est le vendredi midi, où là, c'est très important aussi, c'est de revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine pour savoir comment on a vécu les choses. Et désamorcer tout ce qui peut se passer. C'est-à-dire que bah, j'ai mal vécu quand tu t'es énervé après les animaux, quand tu m'as mal parlé, ou revenir aussi sur comment on a fait les choses. Tiens, on aurait peut-être pu faire différemment et ça aurait été plus cohérent. Donc pour la prochaine fois, on y réfléchit et on fera légèrement différemment. Voilà, donc revenir sur tout, de façon à repartir de la réunion avec vraiment rien sur le cœur et qu'on n'en arrive pas à une crise humaine, justement. Tant que tout est désamorcé au fur et à mesure, en fait, c'est ce qui permet que, bah, voilà, on pardonne assez vite et on comprenne, parce que souvent quand il y a quelque chose qui se passe, il y a une bonne raison derrière, mais si on revient pas dessus, ben en fait on le sait pas, et c'est ce qui fait qu'on imagine et que du coup ça crée des tensions derrière, quoi. Et après on rajoute des fois des réunions aussi, dont on appelle ça des veillées, mais c'est pas forcément le soir, pour travailler un peu plus un sujet quand on veut, je sais pas, revenir sur la vision, avoir un nouveau projet qui nous demande du temps et qu'on n'a pas le temps d'aborder dans ces réunions. Donc voilà, des fois on prend 2-3 heures en plus par semaine pour se réunir. Donc ça fait beaucoup de réunions, mais on met ça sur des temps de repas, comme ça, ça évite de manger aussi sur le temps des activités qu'on a à faire pour faire tourner la ferme. Et puis c'est convivial, chacun notre tour, on fait à manger les uns pour les autres, ça tourne de lieu aussi. Et puis on fait tourner aussi l'animation, celui qui est gardien du processus. À chaque fois c'est une personne différente, de façon à ce qu'encore une fois, il n'y ait pas une personne qui s'accapare la parole et qui soit avec un pouvoir un peu induit de bah, c'est moi qui parle, etc. Donc chaque semaine ça tourne. Et voilà, du coup c'est un système qui marche assez bien, c'est assez équilibré surtout. Même parole, même pouvoir de décision, indépendamment des années d'expérience, des années d'études, de tout un tas de choses. Même salaire, voilà, quelles que soient les activités. Voilà, donc c'est un système qui tourne assez bien. En 15 ans, il n'y a pas eu de tension. malgré que y ait des gens qui soient rentrés, sortis de la ferme. Ça s'est jamais fait dans des conflits ou quoi que ce soit. Donc on est assez fiers de ce modèle collectif. Et ce modèle collectif, il nous a permis beaucoup de choses en fait, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, par exemple un éleveur tout seul, c'est 365 jours par an derrière ses animaux, dans une société où on ne nous prône pas forcément ça. Aujourd'hui, à 6 associés, c'est un week-end sur 6 d'astreinte, donc on a quand même 4 ou 5 week-ends où on peut profiter, selon les saisons, hein. Évidemment quand il y a les foins, il y a plus d'activité, quand c'est l'agnelage, etc. Mais il y a des moments où on peut prendre du temps, on peut prendre des vacances, on a des enfants, on peut tous les voir grandir, travailler, mais quand même avoir des activités avec eux, en profiter. On a le temps de se construire nos maisons, on a le temps de se former, etc. Parce qu'on est nombreux. Quand on fait des activités, forcément quand on est à plusieurs, c'est quand même moins pesant si c'est des activités un peu physiques. Quand on fait un SMIC, il y a des pierres à ramasser, un agriculteur tout seul, c'est 3 jours et puis 2 hernies discales à la fin. Nous, c'est 2 ou 3 heures de temps, puis à la fin, on finit par une bouffe ensemble, et puis en fait, on s'est bien amusé dans le chantier. Donc ça permet en fait que ça soit beaucoup plus agréable, on se sent moins seul, et puis on a le temps aussi de se consacrer à des choses que d'autres agriculteurs n'auraient pas forcément le temps de gérer. Nous, c'est ce qu'on a toujours dit, c'est un projet de vie, donc on veut que chaque personne qui a une passion puisse la réaliser. Par contre, il ne faut pas que les passions se fassent en dehors de la structure. C'est un peu aussi un des constats de ce qui s'était passé avec les anciens, où chacun s'amusait plus sur d'autres activités que ce qu'il faisait à la ferme. Donc aujourd'hui, nous, par exemple, sur la ferme, on a aussi un atelier spectacle, parce que on a Elena qui avant faisait du spectacle. Quand elle est arrivée à la ferme, c'est quelque chose qui lui tenait à cœur. Donc aujourd'hui, elle fait des spectacles où elle témoigne de ce qu'elle a vécu au niveau agricole, de son parcours, de tout un tas de constats qu'elle peut faire. Et c'est ce qui permet aussi derrière expliquer, acculturer, montrer aux gens ce qui se passe au niveau agricole, mais elle aussi d'être dans sa passion. Moi, je suis référent aujourd'hui sur la ferme des écosystèmes. Donc en gros, comment est-ce qu'on prend soin de notre territoire pour essayer d'avoir encore une ferme dans 20 ans? Aujourd'hui, on parle beaucoup du dérèglement climatique. Nous, en montagne sèche, ça fait un moment qu'on en ressent déjà beaucoup les effets. Si c'est pas aujourd'hui, tant qu'il y a encore un peu de pluie, qu'on plante des arbres, dans 20 ans, il sera trop tard en fait. Donc aujourd'hui, on a planté un peu plus de 5000 arbres dans les 5 dernières années. On a remorcelé tout notre parcellaire, c'est ce qu'on peut voir autour, là, toutes ces lignes de haies. On a travaillé énormément sur un concept qui vient du Key Line Design en Australie, qu'on appelle aujourd'hui hydrologie régénérative, qui commence à arriver de plus en plus justement sur la vallée de la Drôme. Je crois que ça y est, c'est inscrit dans le SAGE 2050, donc même le SMRD se lance dans la démarche. En gros, c'est comment est-ce qu'on ralentit, diffuse et infiltre un maximum l'eau, reprend tous les petits cycles de l'eau, c'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on travaille à assécher nos paysages, hein. C'est pour ça qu'on en est là aussi aujourd'hui. Dès qu'il y a de l'eau sur un toit, on l'envoie dans le ruisseau, en 2 jours c'est dans la mer. Dès qu'il y a de l'eau sur la route, ça va dans le fossé, en 2 jours c'est dans la mer. Au niveau agricole, ça fait 50 ans qu'on répète drainage, irrigation, donc dès qu'il y a de l'eau, il faut assécher, parce que sinon on ne peut pas y aller, on s'embourbe avec le tracteur, et puis comme ça on gagne des surfaces pour cultiver. Puis après on irrigue en allant chercher dans des nappes phréatiques qu'on empêche de se recharger, justement en ayant évacué l'eau. Donc oui, on a asséché les paysages, mais on sait ce qui s'est passé, donc on sait aussi comment est-ce qu'on peut faire la démarche inverse. Donc nous, voilà, on a plein d'ouvrages selon les courbes de niveau, c'est des fossés, où en gros, dès que l'eau tombe dedans, elle peut aller ni à droite ni à gauche, vu que c'est vraiment selon le niveau, et elle est obligée de s'infiltrer dans le sol. Ça augmente la réserve hydrique, ça augmente donc la production de foin, ça alimente la nappe phréatique qui est en dessous, puis bien souvent ça va ressortir dans une source un petit peu plus bas. Donc il y a des endroits où nous, à Mont-la-Huc, on a réussi à multiplier par 4 les usages de l'eau. Par exemple, le captage du village qui est tout en haut, là-bas en face, le trop-plein du captage partait dans un fossé de drainage, donc partait directement au ruisseau. Nous, on a bouché ce fossé de drainage, on a envoyé ça dans une baissière pour l'infiltrer dans la nappe qui est en dessous. Ça ressort à une source qui est juste au-dessus de nos bâtiments, donc on s'en sert pour abreuver nos animaux. Et le trop-plein, on le renvoie sous la ferme dans d'autres baissières, et donc on le réinfiltre dans la nappe phréatique, et surtout on réaugmente la réserve hydrique pour faire plus de foin. Donc on s'en sert 4 fois. Là où avant elle servait une fois, et le reste était évacué. Donc c'est des petits mécanismes, c'est tout bête à faire. Nous, c'est notre dernière utilisation de la charrue, hein, pour faire ces fossés. En une demi-journée, on a pu faire quasiment 1 km de baissière. Tous les agriculteurs peuvent le faire. C'est très simple à mettre en place, mais c'est ce qui permet en fait de stimuler et de s'adapter aussi aux changements qui se passent. C'est à chaque fois, c'est des nouveaux brise-vents, parce que le vent il est de plus en plus fort aussi avec le dérèglement climatique. Dans ces, on a travaillé sur plein d'espèces qui justement fixent l'eau atmosphérique pour les pollinisateurs, parce que pareil, avec le dérèglement climatique, vers janvier, il y a un coup de chaud qui fait que les abeilles se réveillent, puis il n'y a rien à manger dans la nature, donc en fait, les essaims sauvages avaient tendance à disparaître. Donc on y a mis des plantes qui fleurissent en décembre, janvier, février, pour que même quand elles se réveillent pas au bon moment, elles aient quand même à manger. Enfin voilà, c'est des ouvrages qui sont multifonctionnels. Et puis on nous dit souvent, vous êtes courageux, parce qu'en fait, si on a enlevé les arbres, les haies, c'était pour faciliter la mécanisation. Mais donc le temps qu'on perd en effet un peu sur la mécanisation, nous on s'y retrouve sur les clôtures. Parce qu'on fait ce qu'on appelle le pâturage tournant dynamique. Là vous voyez, les animaux ils sont sur un tout petit parc. Et en fait demain ils seront sur un autre parc. C'est ce qui fait qu'ils mangent tout, qu'ils mangent même les plantes qu'ils n'aiment pas forcément. Et puis qu'ils ne sont jamais deux fois sur le même endroit et ils ne remangent pas leurs propres parasites. Donc ça permet justement une gestion, on va dire, un peu plus cohérente en termes de pâturage, mais ça demande beaucoup de travail parce que normalement il faut faire des grands parcs et puis tout remorceler en petits morceaux. Ben nous, avec les haies qui sont tous les 40 mètres de distance clôturées au-dessus et en dessous, on a juste deux filets à brebis à tendre entre les ouvrages et puis ça y est, les parcs ils sont faits quoi. Donc on gagne un temps fou sur mine de rien le pâturage, donc ça peut s'équilibrer comme ça. Voilà, donc aujourd'hui on a fait un petit peu tout ce travail sur les écosystèmes. Nous, c'est beaucoup pour ça qu'aujourd'hui on milite, parce que c'est pas juste si on le fait ici à la ferme que ça va changer les choses. Par contre, si sur tout le territoire on arrivait un petit peu à reprendre en main cette gestion de l'eau et à la ralentir, ben notamment dans les montagnes où on est en hauteur, c'est un peu les châteaux d'eau, on va dire, de nos villes, c'est là que l'eau se met en réserve. Et si les sources coulent plus longtemps dans les hauteurs, ben il y aura de l'eau plus longtemps dans la Drôme, et même les irrigants à craie vont pouvoir travailler plus longtemps dans le temps. Donc plus on va réussir à lancer cette démarche à grande échelle, plus ça va résoudre les problématiques sur l'ensemble de la vallée de la Drôme. Thierry avait beaucoup cette vision, et les Coguilles aussi, de corps territorial. Donc voilà, pour nous, les montagnes, c'est vraiment ça, la réserve d'eau, et puis la réserve de biodiversité aussi, parce que mine de rien, forcément, dans la plaine, là où c'est beaucoup plus peuplé, les animaux ont moins tendance à y être. Nous, ici, on est à moins de 4 habitants au kilomètre carré. Enfin voilà, on a une quantité d'espèces et de biodiversité qui est incroyable. Mais voilà, il faut réussir à le stimuler sur un ensemble de fermes au niveau du Haut-Diois, de façon à ce qu'il y ait des corridors, qu'il y ait un brassage génétique, que ça soit quelque chose de durable, parce que si c'est juste un hotspot de biodiversité, il y a une dérive et ça ne fonctionne pas non plus, quoi. Nous, on s'en est rendu compte sur cette biodiversité, parce qu'on a eu le retour du castor sur nos parcelles. Le castor, en 3 ans, il nous a ramené 30 espèces de libellules, quasiment, 5 qui étaient sur liste rouge, donc en voie de disparition. Et puis en fait, une fois qu'il y a le castor, la prairie sèche devient prairie humide, on a des fleurs qui apparaissent. Une fois qu'il y a les fleurs, il y a des insectes. Une fois qu'il y a les insectes, il y a des oiseaux. Et donc on a une parcelle qui, d'un endroit tout sec, devient une parcelle qui abonde de vie. Nous, on peut la pâturer 2 ou 3 fois par an, là où avant c'était une fois par an. Donc oui, il nous prend une petite partie de nos surfaces en inondant une partie de la parcelle, mais le reste est tellement dans l'abondance, on va dire, qu'en fait on s'y retrouve complètement. Puis surtout quand on a observé ce qu'il faisait, en 2 ans, il a réussi à obtenir les résultats que nous, on essaye d'obtenir depuis 10 ans. Il a transformé la végétation, il a remonté la nappe phréatique en fait en faisant ses barrages, ce qu'on essaye de faire avec nos baissières et puis les mares et les ensembles d'ouvrages qu'on a fait là. Sauf que lui, il a fait ça gratuitement, là où nous, on y a passé du temps, de l'argent, du gasoil. Et donc, en fait, si on avait eu le castor qui était venu directement chez nous, on n'aurait rien eu à faire, quoi. Donc aujourd'hui, on est sur ce travail, vraiment, d'essayer d'attirer la biodiversité, de créer les conditions pour les espèces, pour qu'en fait, le vivant vienne spontanément et qu'on réduise, nous, les charges de travail, de temps, etc. Et donc, on fait partie d'un réseau qui s'appelle les fermes paysannes et sauvages, où en gros, c'est vraiment cette idée de se rendre compte que chaque espèce sur la planète a un rôle. Ça, ça a grandi en coévolution pendant des millions d'années. S'il n'y a pas les bousiers, bah oui, on va être obligé d'aller mettre des engrais et d'aller amender nos parcelles. Si on n'a pas le sanglier qui vient brasser la banque de semences, bah, il n'y aura pas des nouveaux feuillus qui vont émerger dans nos forêts de pins qui sont en train de mourir. On peut aller plus loin, hein, même le loup aujourd'hui dans nos raisonnements. Oui, nous, il nous a détruit beaucoup de nos animaux, on a eu des gros problèmes de prédation. Mine de rien, celui qui fait bouger les grands herbivores et qui permet aux feuillus d'émerger, parce que les herbivores mangent des bourgeons des petits arbres qui apparaissent, bah mine de rien, c'est le loup. C'est ce qui s'est passé au Yellowstone. Quand ils l'ont supprimé, l'écosystème a disparu. Donc, bien sûr qu'il faut une régulation et qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de loup non plus, mais il faut quand même qu'il soit présent de façon à ce que nos forêts elles activent et que la transition de nos forêts aille de plus en plus vite, parce que nos forêts de pins, même l'ONF le dit, elles sont en train de disparaître. Et dans les successions végétales, le pin est pionnier et il apparaît pour créer un peu de matière organique pour qu'ensuite les feuillus puissent revenir. Si on n'avait pas rasé toutes les forêts il y a 200 ans après l'industrialisation et parce qu'il y avait beaucoup de gens, on aurait encore nos belles forêts de feuillus. Les forêts de pins, elles génèrent pas d'humidité, elles n'ont pas de nourriture. Donc on a grandement intérêt à stimuler cette transition, parce que mine de rien, s'il y a de l'eau dans les sources, c'est parce qu'il y a des forêts qui infiltrent de l'eau, c'est parce qu'il y a des sols éponges dans les forêts, et que c'est là que l'eau se met en réserve. Donc quand il n'y aura plus de forêt, il sera trop tard. Voilà. Et si on rase la forêt, on ne peut pas y planter des feuillus, on est obligé de replanter du pin, et on repart sur 80 à 100 ans avant qu'on puisse enfin avoir une succession. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des collectifs qui se battent sur la filière forestière. Il y a Gardanne qui a prospecté un petit peu ici sur qu'est-ce qu'on voulait faire de nos forêts, etc. C'est des gros enjeux, c'est-à-dire que la filière forestière, c'est ce qui fait qu'il y a de l'eau, c'est ce qui fait qu'on a de la biodiversité. On parle souvent des dégâts justement du grand gibier dans les champs, des sangliers, etc. Pourquoi le sanglier, pour nourrir ses petits, vient faire des dégâts dans les champs? C'est parce qu'on a détruit les forêts, qu'il n'y a plus à manger dans les forêts. C'est pas le sanglier le problème. Le jeu, c'est de remettre à manger dans la forêt pour qu'il y retourne et qu'il assure sa fonction écologique. C'est pas de supprimer le sanglier à tout prix, quoi. Voilà, donc c'est vraiment cette logique de essayer de cultiver du vivant plutôt que d'essayer de cultiver des productions. Une fois que le vivant est là, tout fonctionne, il y a l'abondance, les équilibres se créent, et en fait, ben nous, on a juste à profiter de cette abondance, et donc ça nous offre beaucoup plus de temps derrière et beaucoup plus de plaisir à faire de l'agriculture aussi, quoi. Il y a beaucoup de gens qui travaillent justement pour en fait se faire plaisir le soir ou les week-ends quand ils rentrent dans leur jardin, quoi. Moi, c'est ce que je disais, nous, on a 1000 hectares de jardin. Tout ce que je fais au quotidien, moi, je m'éclate. Souvent, on nous dit, vous êtes courageux d'avoir fait tout ça. En fait, c'est pas du courage. Moi, je trouve ça beaucoup plus courageux de faire un travail qui nous plaît pas que, au contraire, tous les jours, bah, d'aller planter des arbres, d'aller faire des barrages mimétiques castors, que de prendre soin d'un écosystème où, en fait, mes enfants vont grandir et où, bah, ça fait plaisir d'aller se promener dans un endroit qui est beau, où il y a de la biodiversité, etc. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne. La deuxième chose, c'est que, bon, moi j'ai fait une école d'ingénieur en agriculture spécialisée sur l'agroécologie. On nous a fait tout un topo sur justement ce dérèglement climatique, la crise de la biodiversité, etc. Le problème, c'est qu'une fois qu'on le sait, bah, c'est quelque chose où en effet il y a de l'éco-anxiété. Et donc si on n'essaye pas de faire un tout petit peu quelque chose, bah, on se retrouve vite justement dans un mal-être. Voilà. Donc j'ai besoin d'essayer de faire quelque chose, même si je sais que bon, on va pas sauver le monde et on va pas changer les choses du jour au lendemain. N'empêche que d'essayer d'amener notre petite pierre et puis si on trouve des solutions, d'essayer de justement en faire profiter les autres et que les choses évoluent petit à petit, bah tant mieux, en fait j'aurais fait un peu le pourquoi je suis là. Puis quand je parlais des êtres vivants tout à l'heure et du rôle des êtres vivants, voilà, des différentes fonctions, c'est un peu ce qui nous inspire chez les coquilles. Pourquoi est-ce qu'on travaille avec eux? C'est que c'est bien beau d'aller regarder comment fonctionne le castor et comment est-ce qu'on peut mimer ce que lui fait, mais si on se rappelle que l'homme est un animal et fait partie justement de la planète et qu'on est la nature aussi, ben en fait on a encore des exemples d'hommes qui vivent dans leurs écosystèmes et qui sont capables de les agrader, notamment les coquilles. Voilà. Et donc Quand un oiseau va manger un fruit et lâcher une graine un peu plus loin pour faire un nouvel arbre, c'est pour que ses petits à manger aussi, qu'il y ait plus de nourriture, et donc c'est perpétuer l'espèce. Quand le sanglier il mange un ver de terre qui retourne une motte d'herbe, et que là où la motte d'herbe se décompose, ben, les vers de terre viennent se reproduire, c'est pour qu'il y ait plus de vers de terre et que ses petits puissent aussi survivre, donc que la population puisse grandir. Voilà, chaque espèce développe le territoire où il vit. On parle souvent de, bah même un rouge-gorge, il a un territoire, un castor, il a un territoire. Et en fait, même les coquilles, quand ils parlent d'eux, ils ne se présentent pas au niveau personnel, ils vont parler de leur territoire, telle montagne, tel lieu sacré, etc. Parce qu'on est là, sur un petit bout de planète, et en fait, on est chargé d'en prendre soin et de le stimuler pour que nos enfants ils puissent s'y épanouir aussi. Et donc nous, en tant que grands prédateurs qui mangeons de tout, en fait, ça devrait être ça notre rôle. Et avant, le modèle paysan, c'était ça. C'était des générations où on se transmettait justement un bout de terre. Et donc, on connaissait notre écosystème, on savait comment ça fonctionnait. On savait que tel arbre mort était important pour la buse qui allait se poser et manger les petits ravageurs qui, mine de rien, détruisent la culture pour éviter qu'on ait à ressemer, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup de néo-ruraux qui viennent s'installer parce que beaucoup d'agriculteurs disent à leurs enfants « Non, mais fais pas le même métier que moi, c'est trop difficile, etc. » Mais mine de rien, même si le néo-ruraux a la meilleure intention du monde, tant qu'il connaît pas son territoire, ben en fait, on fait des erreurs. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Thierry m'a dit quand je suis arrivé là, « Tu viens habiter ce territoire ?» Maintenant, il va te falloir 10 ans pour être habité par ce territoire. Et c'est vraiment cet enjeu-là, en fait, de tomber amoureux du lieu où on vit, le comprendre, et comment faire en sorte, justement, de l'agrader, de faire en sorte que ça aille de mieux en mieux. Et pour moi, c'est l'un des enjeux que devraient avoir tous les agriculteurs. Mais le problème, c'est que, bah oui, on en demande tellement aux agriculteurs aujourd'hui, et on est dans des telles contraintes d'agro-industrie, de mécanisation, d'emprunt, etc., que même s'ils savent, des fois, que, bah oui, il faudrait planter des arbres, il faudrait remettre tel V en place, que là, on est en train de dégrader les sols en faisant des labours dans le sens de la pente, etc., mais en fait, ils n'ont pas de levier d'action pour faire autrement, parce qu'ils sont tout seuls, et puis qu'en fait, bah, il faut que j'ai des sous pour la fin de l'année, sinon je mets la clé sous la porte. Quand on voit la crise agricole aujourd'hui, on en est rendu là, quoi. Donc nous, le modèle en collectif, c'est ça qui nous a permis aussi, c'est d'avoir ce temps, justement, pour faire différemment, et puis pour expérimenter et essayer des choses, quoi.
Et vous êtes en lien avec d'autres collectifs ?
On est dans différents réseaux, en effet. Après, on est déjà un collectif, c'est souvent ce qu'on nous dit, est-ce que vous êtes en CUMA, etc. Mais en fait, 6 agriculteurs ensemble, c'est déjà une sorte de micro-CUMA. On est dans la CUMA de Vacher-Ranquin, par exemple, pour la machine à bois déchiqueté. Nous, on fait du BRF avec, pour remettre dans les sols, amender les sols avec du bois qui permet aux mycorhizes de se développer. Les mycorhizes déplacent de l'eau de 150 mètres de distance à l'horizontale, 50 mètres à la verticale. Quand on dit c'est la trame internet de la nature, c'est aussi hyper important dans les cycles de l'eau. Donc nous, on met du bois déchiqueté comme ça de partout. On est dans une CUMA pour le retourneur de fumier. Enfin voilà, donc il y a différentes choses où c'est des grosses machines, donc on profite de ce qui se passe sur le territoire. Mais sinon, nous, on a nos outils de travail, et donc on est déjà dans notre petit groupe. Mais après, il y a sur les formations, donc tout ce qui est homéopathie à la ferme, tout ce qui est travail sur justement les traitements un peu alternatifs. Nous, mine de rien, on n'utilise quasiment plus rien en termes de médicaments pour les animaux. Quand il y a une morsure de loup, évidemment, il va y avoir un coup d'antibiotique, hein, mais sur le reste, c'est beaucoup de l'homéopathie, des huiles essentielles, enfin voilà. L'équilibre entre les animaux a quand même porté ses fruits. Voilà, après, on en a qui vont se former un peu avec l'atelier paysan sur la mécanique. Enfin voilà, il y a différentes choses.
Il y a du lien avec l'étranger ?
Avec l'étranger,
à quel niveau ? D'autres expériences qui se font à l'étranger, avec dans cette dynamique-là de régénération de...
Alors on travaille beaucoup dans un entre-soi, mais en fait on est quand même fortement inspiré par beaucoup de choses. Chaque année, au début, on mettait en place des stages permaculture. Première année, c'était avec Bernard Alonso qui a créé la permaculture humaine, justement, pour nous aider sur justement ce design d'équipe, comment on s'organisait, nous, notre équipe d'humains entre nous. Après, on a fait un design un peu spatial, qu'est-ce qu'on voulait faire dans le cœur du village. Après, on a travaillé sur jardin-forêt avec Antoine Talin, des alvéoles, sur justement quel type d'arbres on pouvait essayer de développer ici, d'autres que les poiriers bon curés et les noyers qu'il y avait partout sur le territoire, mais où il y avait assez peu d'autres choses. Après, on a travaillé avec Andy et Jesse Darlington, qui sont des permaculteurs dans les Pyrénées, mais qui avaient déjà un système d'élevage, pour réfléchir un peu justement sur comment faire un système d'élevage un peu différent. Après, on a fait un stage Keyline Design, donc cette hydrologie régénérative, avec Franck Chevalier, qui lui est un agriculteur qui, pareil, essaye de développer cette approche en France déjà depuis une bonne vingtaine d'années, on va dire. Le Keyline Design, ça a été inventé dans les années 60 en Australie. Donc quand on parle de l'étranger, voilà, ça fait partie de ces démarches où ils ont de l'avance sur la désertification, ils ont mis en place des solutions, on sait qu'aujourd'hui ça marche, donc pourquoi ne pas aller s'en inspirer tout bêtement pour les ramener chez nous. Après, on a fait la rencontre avec Hervé Coves, qui est venu vivre quasiment un an chez nous, qui lui travaille énormément sur les micro-cycles de l'eau, justement, les cycles de l'eau verte, comment ça se passe dans la nature. L'autre cycle, que le cycle de l'eau bleue qu'on nous apprend à l'école, donc l'eau qui s'évapore de la mer, remonte à la montagne, il pleut, puis redescend dans les ruisseaux. Il y a des tonnes de petits mécanismes, hein, les micro-cycles avec les mycorhizes, l'eau de la condensation, les espèces justement qui fixent l'eau atmosphérique dans les forêts, qui restituent l'eau de l'évapotranspiration des arbres au-dessus. Enfin, voilà, tout un ensemble de petits cycles de l'eau qu'on a oubliés aussi. Et puis depuis peu, on travaille beaucoup avec les fermes paysannes et sauvages, et notamment Suzanne Yuski et Baptiste Morizot, sur les ouvrages mimétiques castor, pour justement créer un endroit un petit peu attirant pour le castor, qui est à 1 km de distance de notre ferme, pour essayer d'attirer chez nous et qu'il aille plus vite dans la démarche que ce qu'on a fait. Donc voilà, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes qui ont des sacrées compétences et des sacrés savoirs, qui en fait nous les ont aussi, ils nous en ont fait profiter, et donc on essaye de mettre en application. Et donc aussi derrière, on accueille beaucoup sur des visites, on essaye de transmettre, donc ce que je disais, des CFPPA, des écoles d'ingénieurs, on a des chercheurs qui viennent nous voir beaucoup aussi pour voir. C'est dommage, ils n'ont pas suivi depuis le début l'expérimentation. Aujourd'hui, ils nous disent il faut absolument qu'on suive pour la suite. Il y a beaucoup de journalistes qui viennent aussi pour parler un petit peu de ce qui se passe. En fait, c'est souvent quand on est au pied du mur et qu'il n'y a plus d'eau qu'on se met à agir. Donc dans les grandes années de sécheresse, on a eu beaucoup d'agriculteurs qui sont venus voir, parce qu'ils n'avaient plus d'eau chez eux du tout, qu'est-ce qu'on pouvait essayer de mettre en place. Bon, là, ça fait 2 ans qu'il y a quand même pas mal de pluie, donc il y a un peu moins d'agriculteurs. Mais voilà, on sait très bien que ça va revenir dans tous les cas, parce que le dérèglement climatique, il n'est pas prêt de changer comme ça. Voilà. Donc en effet, on essaye quand même de travailler un maximum avec d'autres réseaux, de communiquer sur ce qu'on fait, et puis de s'inspirer de tout ce qui se passe à droite à gauche. Je parlais du pâturage tournant dynamique, c'est pareil, c'est quelque chose qui date du début du siècle, qui a été créé en France, personne n'y a cru. Les Américains l'ont repris, ils l'ont fortement développé, et maintenant on commence à aller s'inspirer de comment ça se passe chez les Américains pour le ramener chez nous. Voilà, donc c'est, des fois, on ne comprend pas bien. On fait aussi pour la régénération des sols beaucoup de travail autour, donc je parlais du BRF, mais on fait du biochar, c'est une espèce de charbon qu'on fait par pyrolyse qui sert d'habitat pour les micro-organismes, et puis un morceau de charbon stocke 5 fois son volume d'eau. Une tonne de biochar stocke 2 tonnes 6 de CO2, donc pareil, vis-à-vis du dérèglement climatique, ça a une grande action. Puis une fois qu'on a du charbon et du bois dans nos sols argileux, en fait on n'arrive plus à les tasser, donc il y a moins besoin de travailler le sol et d'aérer. Du coup, pour nous, ça fait partie des solutions un peu d'avenir. Et ça, c'est pareil, ça date, ça a facilement 50 ans déjà que ça a été créé en Australie. Ça a fait ses preuves un peu partout sur la planète, les chercheurs l'ont validé. Ça fait partie des solutions prônées par le GIEC. Hein. Mais en France, tant que ce n'est pas validé scientifiquement, on en parle assez peu. Les scientifiques ont du mal à y croire. Mais voilà, nous, c'est quelque chose où aujourd'hui, on en met dans toutes nos parcelles, on voit que ça marche sacrément bien. Et donc, on essaye justement, de mettre en place un process pour le fabriquer qui soit reproductible par tous les agriculteurs et de communiquer un maximum dessus pour que les autres se mettent aussi à le faire, quoi.